Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges, les gloires et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la chance d'être là une nouvelle fois avec Iman en état de jeûne dans ce mois béni de Ramadan. On demande aux personnes à l'extérieur de bien vouloir observer le silence, inshallah ou l'aziz. Celles qui sont à l'intérieur du Jamaat Khana de se rapprocher, s'il vous plaît. On essaie de se rapprocher un maximum, inshallah. Avant le début, pour le début du programme, les personnes, mashallah, qui ont du temps libre, eh bien ce temps, s'il est consacré à entendre parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera pesé lourdement, avec beaucoup de bénéfices pour nous, yawmul qiyama, devant Allah tabarak wa ta'ala. Sachons profiter, puis surtout que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous cet après-midi Hazrat Maulana Osman Kaji, sahab, qui est Cheikhul Hadith au Darul Uloum Ashrafiyah, petit-fils de Kaji Sab, mashallah, qui a beaucoup fait aussi pour la communauté. Et c'est, mashallah, une personne qui est investie dans le dîn, qui a une énorme connaissance dans le Hadith, enseignant du Sahih al-Bukhari, mashallah. Et cet après-midi, Hazrat Maulana, qui est par ailleurs diplômé du Darul Uloum Zakaria, mashallah, qui a fréquenté longtemps Mufti Raza ul-Haq, va nous développer le verset du Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil-uqud, donc le début de la suratul Ma'ida, et c'est de cette sourate, eh bien, qui est le socle, qui est la base, eh bien, du développement de beaucoup de règles de notre religion, et il est important de connaître le sens, eh bien, de nos textes, qu'est-ce qu'elles composent, qu'est-ce qu'elles structurent, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Donc, Inch'Allah, Al-Aziz, sans plus attendre, Maulana, il va commencer son discours. Et une nouvelle fois, je réitère ma demande. Les personnes qui sont dans le Jamaat Khana, eh bien, de bien vouloir s'avancer. Maulana a quitté la plaine des Kaf, il est venu jusqu'ici à Saint-Denis. Nous, on peut faire un petit effort, Inch'Allah, Al-Aziz, se rapprocher à de manière à ce qu'il y ait aussi un ordre dans notre assemblée. Jazakumullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil 'uqud. Nakahtuha wa qabiltuha Watazawajtuha. Ce sont des termes que nous avons certainement entendus. Pour certains d'entre nous, nous les avons prononcés. Pour d'autres, nous avons fait quelques répétitions avant de passer devant le Moudissab, de peur de se tromper. Et on ne s'attendait pas qu'ils nous disent Watazawajtuha. On a juste répété Nakahtuha, Qabiltuha. Et là, il nous dit un troisième, on est un peu déstabilisé. Ce sont des mots simples, des petites phrases. Nakahtuha, je l'ai épousé, je l'ai accepté, je l'ai pris comme épouse. Mais ce sont des termes qui, derrière, renferment et cachent une énorme responsabilité. Celui qui est marié, il le sait, que depuis qu'il a prononcé Nakahtuha, ce n'est plus la même chose. Il n'est plus célibataire. Maintenant, il est un homme marié, avec les responsabilités que cela implique. Homme marié veut dire qu'il prend la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Alors que lorsqu'il a dit Nakahtuha, il a juste dit « Je me marie, j'ai accepté de me marier. » Mais ça implique donc la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, de son épouse, de ses enfants, aussi d'offrir un toit à sa famille, offrir des vêtements pour sa famille, s'occuper de l'éducation de ses enfants. Ensuite, il y a petits-enfants, petits tracas, grands-enfants, grands tracas. Donc cela implique beaucoup de choses. Si l'épouse est malade, si les enfants sont malades, s'occuper, etc. Alors qu'au début, il n'a prononcé qu'une seule phrase. Pour l'épouse, c'est pareil. Elle a accepté de se marier, alors ça veut dire s'occuper d'un foyer, s'occuper d'une maison, s'occuper de l'éducation de ses enfants. Quand ces mêmes enfants sont malades, rester éveillé. Alors qu'au départ, elle a juste dit « j'ai accepté ». Et elle n'avait peut-être pas aussi en tête quelles seraient les responsabilités auxquelles elle devrait faire face dans le futur. Mais lorsqu'elle a prononcé ces mots, alors elle a pris un engagement. Elle a pris un engagement, celui donc d'être une bonne épouse et d'être une bonne mère. Cet engagement, c'est un exemple de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le début de sourate Al-Ma'ida. Cette sourate Al-Ma'ida, elle est parmi les dernières sourates à être révélées. Elle a cette particularité d'être madaniya, c'est-à-dire post-égyrienne. Elle a été révélée dans la période médinoise. Et parmi les caractéristiques des sourates qui ont été révélées dans la période médinoise, c'est que dans ces sourates, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce qu'on appelle des ahkam, c'est-à-dire des ordres à mettre en pratique et aussi donc des interdictions desquelles on devrait s'abstenir. Dans la révélation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran sur environ 23 années. Et au début, Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne partie du Coran, les ulama nous disent à peu près 2/3 du Coran environ, bien sûr c'est arrondi, mais environ 2/3 du Coran a été révélé à Makkatul Mukarrama, sur une période d'environ 13 ans. Et la particularité de ces sourates et de ces versets qui ont été révélés à Makkah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a surtout fait l'éducation des sahaba radiyallahu ta'ala majma'in à travers les versets. Et il a surtout parlé du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophétat, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des prophètes précédents, et aussi de la akhira, c'est-à-dire de la vie après la mort. Ce sont les trois grands sujets du Coran. Les ulama nous disent, pour résumer les sujets traités dans le Coran, tawhid, risala et akhira. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophétat des anbiya alayhi salatu wa salam en général, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire des prophètes alayhi salatu wa salam, bien sûr le prophétat de Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Et après, troisième sujet, donc, la vie après la mort. Donc, avec à la fois le fait qu'il y aura As-Sa'a, c'est-à-dire la fin du monde, parce que les Arabes et les polythéistes de Mecca ne croyaient pas en la fin du monde. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la fin du monde. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de redonner la vie après la mort, de Jannah, de Jahannam, le paradis, l'enfer, et donc et les étapes qu'il y a après la mort. Donc ça, c'est les sujets qui sont souvent traités dans les sourates révélées avant l'Hijr. Et après l'Hijr, après donc l'émigration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est à Madina Munawwara, c'est là que descendent, nous viennent les ahkam, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, la salat, elle, ça a été révélé avant l'Hijr, mais tous les autres piliers, le somme, le jeûne du mois de Ramadan, a été rendu obligatoire lorsque Rasulullah sallam est arrivé à Medina Munawwara. La zakat, il y a divergence sur le sujet. D'après certains, la zakat est déjà obligatoire à Mecca, mais pas le détail de la zakat. Et d'après d'autres, la zakat a été rendue obligatoire lorsque Rasulullah sallam est arrivé à Medina Munawwara, le hajj, etc. Et ensuite, tous les ahkam qui sont cités dans le Coran et tous les, donc, les ordres et les points de jurisprudence nous ont été révélés dans la période de, qu'on appelle la période médinoise. Et donc cette sourate, Suratul Ma'ida, qu'on traduit par la, c'est-à-dire dans le sens c'est le repas. Al-Ma'ida dans le sens, c'est-à-dire l'explication, alors on traduit par la nappe qui a été servie, ou certains, la table servie ou la nappe servie, ou alors c'est le repas que les apôtres ils avaient demandé à Isa alayhi salatu wassalam, un mu'jiza, un miracle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il fasse descendre un repas. Et c'est de cette sourate a été nommée à cause de cette histoire qui est mentionnée à la fin de la sourate. Alors, cette sourate Al-Ma'ida, elle a été révélée. Alors, les versets du Coran, quelquefois, il arrive qu'une sourate ait été révélée dans son intégralité. Et il arrivait quelquefois que des versets étaient révélés, quelques versets. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il disait aux sahaba radiyallahu ta'ala majma'in que tel verset, placez-les après tel autre verset, qui sont tel verset ou les versets de telle sourate. Alors placez ces versets là-bas, ici et là, etc. Donc, dans la révélation du Coran, quelquefois une sourate en entière et quelquefois des versets que ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait classer aux sahaba radiyallahu ta'ala majma'in. Et donc concernant cette sourate, elle a été révélée dans différentes étapes, notamment donc parmi dans les dernières années de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant cette sourate, il y a un tabi'i, Jubayr ibn Nufayr rahimahullah. Il dit que j'étais allé au Hajj. Et après avoir terminé le Hajj, je suis passé à Medina Munawwara et j'ai rencontré Ummul Mu'minin, Aïcha radiallahu ta'ala anha, ou plutôt donc je suis allé lui rendre visite. Et elle m'a demandé Taqra'ul Ma'ida, est-ce que tu lis la Surah Al-Ma'ida? Alors il dit que je lui ai répondu par l'affirmative, que oui, je lis. Alors ensuite, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit que cette sourate, elle est la dernière sourate à être révélée. Alors les ulama, ils disent, ça veut dire parmi les dernières sourates à être révélées. Et ensuite, elle a dit que fa'ahillu halalaha wa harrimu haramaha. C'est considéré comme licite, ce qui a été cité comme licite dans ce chapitre et dans cette sourate, est considéré comme interdit ce qui a été rendu interdit dans cette sourate. Elle faisait allusion au fait que, faisant partie des dernières sourates à être révélées, alors les versets qui sont dans cette sourate n'ont pas pu être abrogés, et c'est ce qui a été mentionné dans cette sourate comme halal ou comme haram, comme licite ou illicite, il faudra le prendre comme tel. Et c'est aussi dans cet incident-là, rapporté par Jubayr ibn Nufayr, rahimahullah, qu'il dit, lorsqu'elle a posé la question à Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quel était le comportement de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, alors Aïcha, radiallahu ta'ala anha, lui a répondu que c'est le Coran. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors pour l'interprétation de ce hadith, les ulama ils donnent entre autres deux explications. Que si tu veux un Coran personnifié, si tu veux voir le Coran de façon pratique, c'est en voyant et en observant la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que tu auras un Coran vivant devant toi. Lorsqu'on va lire la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon une autre interprétation, c'est que tout ce qui est mentionné dans le Coran, comme étant les qualités des gens pieux, les qualités qu'il faut acquérir et les choses qui sont détestables et qu'il ne faut pas faire. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui a suivi les enseignements du Coran à la perfection. Et donc Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'est dans ce hadith là aussi qu'elle dit que le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Donc on voit ici dans ce qui nous a été rapporté par Jubair ibn Nufair rahimahullah, que l'importance des enseignements qu'on a dans cette sourate, Suratul Ma'idah. Il y a aussi Muhammad ibn Muslim rahimahullah qui dit que j'ai lu la lettre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait adressée à Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala an, lorsqu'il l'avait envoyé à Najran. Il avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam a commencé à se propager, alors il envoyait des émissaires, des responsables qui étaient à la fois chargés de veiller à la bonne marche de l'organisation de l'État, et ils étaient aussi des enseignants. Ils avaient cette responsabilité de transmettre le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et d'enseigner le dîn. Alors, un tabi'i dit que j'ai lu la lettre qui avait été écrite, c'est-à-dire envoyée, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait écrire à Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala anhu, qu'il avait envoyé donc vers le Yémen, vers Najran. Et au début de cette lettre, il y avait le début de Suratul Ma'idah qui avait été écrit pour ce sahabi comme directive pour lui, comment donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a à enseigner et comment agir avec les administrés. Et c'est dedans, il y avait, c'était écrit هذا بيان من الله ورسوله. Et ensuite, tout de suite, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Et le début, quelques versets du début de Suratul Ma'idah. Et donc, dans cette lettre, il y a que voilà le discours, voilà l'enseignement venant d'Allah et de son messager. Et ensuite, il y avait le début de Suratul Ma'idah qui était mentionné. Et pour aujourd'hui, donc, comme thème qu'on a souhaité traiter, c'est le début de Suratul Ma'idah et c'est le début du début. C'est-à-dire, ce n'est même pas un verset dans son intégralité, c'est vraiment le début du verset. Et dans ce début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud » Ô vous qui avez cru, remplissez pleinement vos engagements. Respectez pleinement vos engagements. Allah subhanahu wa ta'ala, il débute la surah, et ici notamment cet ordre-là, par « Ya ayyuhalladhina amanu ». Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'une fois quelqu'un est venu l'interroger, que « donne-moi un conseil », alors lui a dit que lorsque tu entends cette parole dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu », alors tends l'oreille, en ce sens, tends l'oreille. Parce que ça veut dire que ce verset, il s'adresse particulièrement à toi. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à chacun d'entre nous. Quand il dit « Ya ayyuhalladhina amanu », il s'adresse à nous. Les ulama nous disent que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie ce terme « Ya ayyuhalladhina amanu », il y a dans cette façon d'interpeller les croyants, il y a déjà un signe de bienveillance, de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle avec le lien qui nous lie à lui. Lorsqu'un père, il appelle son fils et il veut lui dire quelque chose, il veut lui ordonner, lui conseiller ou lui dire de faire telle ou telle chose, alors il va dire « Oh mon fils ». Quelquefois on dit « Oh mon gâté ». Le mari, il veut dire à son épouse « Ma chérie, mon amour, mon épouse ». Si c'est un enfant à son papa, au papa, maman, en interpellant la personne à qui on souhaite demander quelque chose par le lien qui nous lie avec cette personne, alors déjà, il y a cette relation d'amour ou de proximité, d'amitié. Et en même temps, donc, il y a le fait que, au nom de ce lien-là, au nom de ce lien qui nous unit, je te demande telle ou telle chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en nous disant « Ya ayyuhalladhina amanu », il nous interpelle par ce lien qui nous lie à lui, et en même temps il nous demande que, au nom de cette foi que vous avez cru en moi, vous croyez en moi, et donc au nom de cette iman et au nom de cette foi, je vous ordonne. Et là, entre autres, dans ce verset, au nom de cette foi que vous croyez en moi, remplissez pleinement vos engagements. Au passage, dans le Coran, on a quelquefois « Ya Bani Israël ». Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au fils d'Israël, alors il emploie aussi cette formule pour les interpeller, « Ya Bani Israël ». Alors les ulama nous disent que là aussi, il y a cette probable sagesse là-dedans, que Allah subhanahu wa ta'ala dit au fils d'Israël, et Israël, c'est un autre nom de Ya'qub alayhi salatu wassalam. Et Israël, ça veut dire Abdullah, serviteur d'Allah. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'interpelle ainsi, les enfants de la descendance de Ya'qub alayhi salatu wassalam, alors il leur dit, ô vous, fils du serviteur d'Allah, vous avez ce lien-là qui vous lie à moi. Vous êtes les descendants de mon serviteur. Et si vous êtes les vrais descendants du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez donc accepter les recommandations et les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a donnés. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en disant « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru »« Aoufou bil'uqud » « Remplissez pleinement vos engagements. » Alors le terme « aqd » en arabe, ça veut dire « nouer ». Lorsqu'on noue, on fait un nœud donc avec une corde. Alors à l'origine, ce mot « uqud » veut dire cela. Et après, les ulama, ils ont expliqué, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, notamment, qui est un célèbre commentateur du Coran parmi les sahaba, radiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Alors, il dit que ici, et d'autres commentateurs le disent aussi, que ne, ici, ça veut dire les contrats, les engagements, ceux qui vous engagent. Alors, Mufti Shafi, rahimahullah, dans son célèbre commentaire du Coran, Ma'arifur Coran, il nous dit que nos engagements, ça implique trois types d'engagements. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de respecter nos engagements, il y a trois types d'engagements. Premièrement, c'est l'engagement qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Lorsque j'ai dit « Amantu billah », je crois en Allah, ou lorsque je dis « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, alors j'ai pris un engagement. J'ai fait un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme le nikah dont on a parlé au début. Au début, devant le Moulissab, il a dit « Nakahtuha ». Il a dit une phrase, mais cela implique beaucoup. Lorsqu'on dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », c'est une phrase ou deux phrases, mais cela implique énormément. Quand je dis « La ilaha illallah », ça veut dire que je prends Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu, unique Dieu. Et ça veut dire que je vais croire en Allah subhanahu wa ta'ala comme il est, et je suis prêt à passer ma vie entière selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, on a appris certainement iman et mujmal. Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkamih. On nous a fait répéter, on était petits, on était à la madrasa, Ou alors sinon, quelquefois avant même de partir à la madrasa, avec les parents, les grands-parents, est-ce que vous allez au kalima avant de dormir? Est-ce que vous connaissez encore au kalima? Les grands-parents demandent toujours aux parents, est-ce que vos enfants ils connaissent le kalima? Les cinq kalimas, ils connaissent? Awwal kalima, dom, panjum. Quand on a lu, on a appris Iman et Mujmal. Iman Mujmal, ça veut dire la foi en résumé. Et ça résume cet engagement qu'on a pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit Amantu billah kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi. J'ai cru en Allah subhanahu wa ta'ala comme il est, avec tous ses noms et ses attributs. Et après, il y a une autre phrase. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِ. J'ai accepté tous ses ordres. Ça veut dire que je m'engage à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de ma vie, quel que soit le domaine dans lequel il y aura un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis prêt à l'obéir. C'est ça Iman Mujmal. C'est un engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ça veut dire que j'obéirai à Allah subhanahu wa ta'ala comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me l'a enseigné. Et donc cette profession de foi, cette kalima, tayyiba, shahada, cette kalima que nous lisons, que nous répétons, ça veut, on doit toujours se le rappeler que effectivement, on a des récompenses en répétant ce kalima, mais en répétant ce kalima, je dois me rappeler de l'engagement que j'ai pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que ma vie entière soit soumise aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le domaine de ma vie, que ce soit professionnel, conjugal, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes voisins, avec autrui en général, je dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle souvent lorsqu'il cite les croyants. Alors, dans le salat de Tarawih, certainement, nous l'entendons souvent. On a « Alladhina amanu wa amilu salihat ». Ou alors dans la sourate Wal-Asr, qui est connue, qu'on lit souvent dans la salate, et qu'on a l'habitude de lire tout le temps aussi dans la salate. Un de nos professeurs, pour plaisanter, il disait, alors c'est, comme il enseignait à des futurs ulama, alors il le disait aux ulama, maintenant c'est général pour tout le monde ça, alors il ne faudra pas critiquer les ulama par la suite, non. Mais il disait qu'il semblerait que la circonstance de la révélation de cette sourate serait qu'on puisse les lire de nos sunnats. Wal-Asr et Inna Atayna Kal-Kawthar. Qu'ils ont été révélés uniquement pour qu'on puisse les lire dans les sunnats nafil. Comme ça, les courtes, il ne prend pas beaucoup de temps. Il le disait sous le ton de la plaisanterie. Wal-Asr, dans cette sourate qui est courte, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle brièvement donc Wal-Asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Allah ta'ala, il jure par le temps et il dit que l'homme va vers sa perdition, l'échec, sauf celui qui croit et qui fait des bonnes actions. Sauf ceux qui croient et qui font des bonnes actions. Et ils s'enjoignent mutuellement la vérité et ils s'enjoignent mutuellement le sobre et la patience. Et donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que « Alladhina amanu wa amilu salihat ». C'est ce que nous disons dans « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». C'est ce que nous avons dit dans « Amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkami ». C'est que ma vie entière, que, comme on le dit souvent, du tombeau, non plutôt du berceau jusqu'au tombeau, que ce soit, en ourdou, ils ont une formule spéciale, que ce soit de Baytul Khala, ila Baytillah. Que ce soit depuis les toilettes, c'est-à-dire l'endroit, que ce soit depuis les toilettes ou jusqu'à autour de la Kaaba, que ce soit donc du berceau au tombeau, que ce soit depuis les toilettes jusqu'à l'endroit le plus sacré qui est autour de la Kaaba, quel que soit dans le domaine de ma vie doit être conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné selon l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet engagement que j'ai pris envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est cet engagement qu'on doit respecter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle dans ce verset, dans ce début de sourate Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil 'uqud, ô vous qui avez cru, respectez vos engagements. Ça, c'est un type d'engagement, l'engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a, les ulama nous disent, c'est un engagement que quelqu'un il prend envers lui-même. Il a fait l'intention ferme de faire quelque chose, et alors c'est un point quelquefois méconnu, mais c'est ce que donc dans les kutub de fiqh et dans les livres de jurisprudence on appelle yamin. Yamin ou alors un nazr. Quelqu'un il a fait un vœu. Ça, on connaît. Quelqu'un, il a fait un vœu. Alors, il y a une différence entre intention et vœu. L'intention, c'est quelqu'un donc, il dit, voilà, je souhaiterais, il a l'intention comme ça, ça passe par l'esprit ou le cœur, il souhaite faire quelque chose dans le futur. Je ferai, par exemple, telle bonne action, etc. Dans Jamaat, on demande, qui fait l'intention? On fait tashkil. Alors, quelqu'un, il lève, il dit, non, mais fais au moins minimum l'intention. Ça n'engage en rien là. Là, c'est juste une intention, une bonne intention. Tu seras récompensé pour l'intention que tu as faite, mais ça reste une intention. Après, il y a un, c'est un vœu. Un vœu, c'est lorsque on prononce le nom d'Allah, on dit « Wallahi », entre autres, ou « je fais le vœu », on prononce ce terme-là, « je fais le vœu pour Allah ». Ou alors, sinon, en arabe, on appelle ça « yamin ». Donc, c'est qu'on jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fera quelque chose dans le futur. Alors, à ce moment-là, ça, c'est un engagement qu'on a pris. Et là, on doit le respecter. Alors, il y a des maslahs spécifiques là-dessus. On ne peut pas entrer dans les détails. Les ulama sont là pour nous aider et nous éclairer sur le sujet. Mais si quelqu'un, il dit, je jure par Allah que je ferai telle chose dans le futur, ben là, c'est un engagement. S'il ne respecte pas, alors il y aura une expiation à donner, il y aura kafara. Il a juste fait l'intention, là c'est l'intention, il n'a pas fait, qaddar Allah, Allah il a destiné ainsi, il n'a pas pu réaliser l'intention qu'il a faite. Mais seulement s'il dit, wallahi, ou je jure par Allah que je ferai telle chose, là c'est un engagement qu'il a pris, et lui concernant, et qu'il devra nécessairement respecter. Alors, sauf si vraiment il a juré par Allah de faire un péché ou quelque chose, donc là c'est différent. Mais là aussi il y a des règles spécifiques à ce sujet. Mais s'il s'est engagé au nom d'Allah de faire quelque chose dans le futur, là il devra respecter. Ça c'est un deuxième type d'engagement. Et après il y a un troisième type d'engagement, c'est l'engagement qu'on prend avec autrui, envers autrui. Là, c'est le domaine vaste des mu'amalat, c'est des transactions, des contrats. Alors, on a donné à titre d'exemple au début le nikah. Le nikah a cette spécificité d'être à la fois une ibada, donc il y a cet aspect qu'en faisant le nikah, on fait la ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a aussi cet aspect de contrat. C'est un contrat qui va unir deux personnes. Le mari il s'engage à certaines choses et l'épouse aussi s'engage à certaines choses. Donc ça aussi c'est un contrat. C'est un mu'amala. C'est un engagement qu'on a pris chacun envers l'autre. Après il y a aussi l'engagement donc dans les transactions. La vente, l'achat, la location, les dettes. Quelqu'un, lorsque il fait une transaction, il vend ou il achète, alors pour celui qui vend, Ben là, il s'engage à donner donc une marchandise qui soit en règle, etc., qui soit conforme, qui soit en bon état. Celui qui achète, ben, il s'engage à payer. Et s'il ne paie pas, ben, c'est une dette qu'il faudra ensuite donc régler. Lorsqu'on fait donc une location, etc., ben, là aussi, il y a un engagement, il y a un contrat. Le musulman, il est tenu de respecter cet engagement, quelle que soit la personne avec laquelle il va faire cet engagement, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Et notamment, ça entre donc sous le coup de ce verset, de cette ayah et de ce verset du Coran et de cette ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les clauses du contrat. Et donc le musulman, déjà, avant de signer quoi que ce soit, avant de signer un contrat, il doit s'assurer que les clauses du contrat soient conformes à la charia. C'est déjà donc quelque chose qu'il doit s'assurer. Est-ce que toutes les clauses qu'il y a... Alors quelquefois, il va signer un contrat donc avec un musulman ou avec un non-musulman. Ben, quelles sont les clauses? Tout ce qui est écrit en tout petit, qu'on ne pense même pas à regarder, etc. Ben, il doit se renseigner quelles sont les clauses du contrat. Est-ce que ce sont des clauses qui sont licites ou pas? Demandez donc aux ulama, aux savants, que voilà, je dois signer un tel contrat. Est-ce que ces clauses-là sont licites ou illicites? Il y a cela aussi qui entre en jeu. Mais du moment ensuite qu'il a signé, ou qu'il dit « je m'engage à », lui est approuvé. En tant que musulman, il a ce devoir maintenant envers Allah subhanahu wa ta'ala à la fois, parce que c'est un ordre d'Allah, Allah nous l'ordonne, et en même temps donc envers autrui de respecter cet engagement qu'il a pris. Un patron qui emploie quelqu'un, ben il a le devoir de payer son salarié, son employé, de respecter les droits de son employé. L'employé qui travaille dans une entreprise, alors c'est un ordre de la charia, c'est un ordre donc d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de respecter les termes du contrat. S'il y a de commencer à telle heure et de terminer à telle heure, s'il ne respecte pas, alors là il enfreint la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne respecte pas l'ordre qu'Allah ta'ala lui a donné de respecter l'engagement qu'il a pris. Pareil donc, c'est le fait de respecter son engagement, c'est dans les deux sens, que ce soit pour le patron ou que ce soit pour l'employé. On ne peut pas abuser. Abuser de son droit, c'est aller à l'encontre de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enjoint à toujours respecter nos engagements. On est un citoyen français. Ça aussi, c'est un engagement. Il y a des lois, etc., à respecter. Alors, le fait qu'on a cette nationalité, ben, c'est aussi un engagement qu'on a pris envers l'État. Alors, reste un autre domaine que lorsqu'on a deux engagements, on a à la fois notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala en tant que croyant, et on a un engagement envers l'État de respecter la loi en tant que citoyen français. Alors, est-ce que lorsque cela coïncide, tant mieux. Mais si cela ne coïncide pas, alors il y a un article de Maulana Anas sur le sujet, si quelqu'un souhaite. Là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais tout est bien détaillé. Et Maulana, alhamdoulilah, donc il nous a facilité et il nous a donné les différents cas. Et il y aura même, inshallah ta'ala, un article qui doit sortir, Az-Zahir wal-Batin, qui doit sortir du Dalul Uloum, où cet article-là sera résumé, inshallah ta'ala. Mais c'est aussi quelque chose auquel on doit se demander et on doit se renseigner, mais c'est aussi donc un engagement. On a accepté le permis de conduire. On a accepté, c'est-à-dire on l'a obtenu lors de l'examen. Mais c'est aussi un engagement de respecter le code de la route, etc. Ça entre aussi dans cet aspect de un des aspects de Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. On a les clauses et le règlement intérieur d'une association. On a les clauses donc lorsqu'on a une association ou gère une association, etc. Il y a des clauses, on a un règlement intérieur. Le fait qu'on intègre cette association, etc., ben là aussi, pareil, ça veut dire qu'on s'engage à respecter. Et donc, sous ce verset-là et sous cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tous ces aspects-là qui entrent en jeu et auxquels donc le musulman il doit faire attention et il doit faire l'effort toujours d'essayer de se rapprocher le plus de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de respecter nos engagements. Respecter ses engagements, c'est le propre du mu'min, du croyant, et en particulier du muttaqi, de celui qui est pieux. Et on va terminer, inshallah ta'ala, là-dessus. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que respecter son engagement, ça c'est les qualités des muttaqoun. Et ne pas respecter son engagement, ça c'est tashabbuh bil munafiqin. C'est imiter et ressembler aux munafiqoun, c'est-à-dire aux hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset de Surat al-Baqara, qui est connu, qui débute par Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Donc dans ce verset connu de Surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute une attitude de Banu Israël qu'il y avait lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, brièvement. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina, alors il faisait la salat vers Beytul Muqaddas, vers Jérusalem. Vers Beytul Muqaddas, il l'a fait pendant environ 16 mois. 16 mois environ au début lorsqu'il est arrivé à Madina Munawwara. Et après, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallam, il souhaitait ardemment de faire la salat vers la Kaaba. Et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a été révélé que maintenant, à partir de maintenant, tu pourras te diriger ou rediriger vers la Kaaba. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été critiqué que un temps il se dirige vers Baytul Muqaddas. Et là maintenant, il a quitté Baytul Muqaddas pour se diriger vers la Kaaba. Alors il a été critiqué au début du deuxième sipara. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela. Après un peu, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc les versets qui parlent de le fait que la Qibla a changé. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de ce verset qu'on a cité, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je ne traduis pas là littéralement, mais pour avoir le sens du verset, que l'obéissance d'Allah ne se limite pas à se diriger vers telle ou telle direction. Vous avez compris que changer de direction, alors ça c'est, il a fait quelque chose de grave. Il a fait quelque chose de grave, il a quitté la direction des prophètes des Banu Israël, etc. Et donc, ils ont critiqué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle ces personnes-là en disant qu'il fallait aller au-delà de ça. Ça ne se limite pas à se diriger vers une telle ou telle direction. Il faut regarder que là-dedans, il y a l'ordre d'Allah. C'est Allah qui a ordonné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se diriger vers la Kaaba. Et c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut retenir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous dit que laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Ce n'est pas, c'est-à-dire le bien ne se résume pas dans le fait de se tourner vers l'est ou l'ouest. Mais le bien et l'obéissance d'Allah, c'est quoi? C'est celui qui croit en Allah, en ses livres, et après ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il donne quelques caractéristiques du musulman. Et dans ces qualités du musulman, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا que, et après Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ voilà ceux qui sont véridiques, voilà ceux qui sont sincères, qui sont véridiques, et voilà ceux qui sont les muttaqoun, voilà ceux qui sont les personnes pieuses. Et dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que les qualités du musulman, c'est quoi ? وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ce sont ceux qui respectent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés à faire quelque chose. Ça, c'est la qualité du mu'min, du croyant. Et dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, en mentionnant les caractéristiques et les défauts du munafiq, de l'hypocrite, il nous dit que, alors il y a différentes versions du hadith. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a cité trois défauts, trois caractéristiques du munafiq, de l'hypocrite. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites sont ceux qui se prétendaient musulmans avec la bouche, mais qui en réalité, dans le cœur, ils n'étaient pas musulmans. Ils avaient accepté l'islam uniquement pour être protégés. C'était donc des Arabes de Madina Munawwara. Lorsque il y a eu Badr, il y a eu la campagne de Badr au tout début, et qu'ils ont vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a eu la victoire, ils ont été inquiets qu'on risque d'avoir des soucis si on ne va pas dans le camp de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se sont dit, ben on va prétendre être musulmans. On va se faire passer pour des musulmans et au moins on sera protégé. On n'aura pas de soucis. Mais on va faire semblant, alors ils venaient même à la salat, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les connaissait, on a certainement entendu donc des récits. Ils connaissaient plus ou moins donc qui étaient les munafiqoun. Ils ont fait beaucoup de tort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le propre du munafiq, de l'hypocrite, alors il nous donne quelques caractéristiques et quelques défauts. Entre autres, il y a إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ lorsqu'il parle, il ment. إِذَا تُمِنَ خَانَ lorsqu'on lui fait confiance et on lui donne un dépôt à garder, alors il ne respecte pas le dépôt qu'on lui a donné à garder, à observer. Et ensuite, on a aussi وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ lorsqu'il prend un engagement, alors il ne respecte pas l'engagement. Il viole l'engagement qu'il a pris et il ne respecte pas l'engagement qu'il a pris. Après, il y a aussi وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a donc c'est un litige avec quelqu'un, alors à ce moment-là, il ment ou alors il détourne son pour aider la vérité pour pouvoir obtenir gain de cause, alors qu'il a tort dans ce litige-là. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous décrit ainsi le munafiq, l'hypocrite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous mettre en garde. Parce que dans le hadith, il y a que celui qui réunit ces quatre caractéristiques, c'est un munafiq. Et celui qui a une de ces caractéristiques, un de ses défauts, alors il a un défaut du nifaq, de l'hypocrisie. Alors, ça ne veut pas dire, les ulama ensuite, ils l'ont expliqué, que ça ne veut pas dire que celui qui fait cette mauvaise action, il devient hypocrite comme les hypocrites de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde que celui qui a ce défaut et ce péché, alors il a un point commun avec les hypocrites. Alors le musulman, lui, va avoir des points communs avec les muttaqoun, les pieux, ou est-ce qu'il veut avoir ressemblé et faire tachabouh et ressembler les munafiqoun. C'est tout à fait logique que le mu'min, il est celui qui veut être dans le groupe des muttaqoun et des gens qui sont pieux et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, respecter son engagement, respecter l'engagement envers Allah, respecter l'engagement envers autrui, ça c'est le propre des muttaqoun et c'est le propre du musulman. Et c'est une qualité qu'on doit développer et qu'on doit s'efforcer, inshallah ta'ala, d'essayer toujours de respecter. Et on aura, inshallah ta'ala, lorsqu'on va remplir et respecter cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura cette qualité du muttaqi et on pourra obtenir, inshallah ta'ala, les récompenses qui ont été promises pour les muttaqoun et pour ceux donc, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer donc le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il nous dit, et on l'a certainement, soit la semaine dernière, ou alors dans les programmes que les ulama ils font régulièrement, ils nous rappellent que l'objectif qu'on doit se fixer par ce jeûne du mois de Ramadan, c'est atteindre la taqwa, être muttaqi, être un meilleur musulman. Le musulman, il est celui que le Ramadan présent ne doit pas ressembler au Ramadan précédent. Chaque Ramadan doit être là pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour resserrer le lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par ce que nos ulama nous disent, ce lien vertical entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous et notre Créateur. Mais il y a aussi ce lien horizontal, c'est-à-dire le lien avec autrui. Ce que les ulama ils citent aussi, il y a le haqqullah, le droit d'Allah, et il y a haqqul ibad, ou huququl ibad. Il y a le droit et les droits d'autrui. Le musulman, donc, son obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par ces deux domaines. Il y a à la fois la salat, la lecture du Coran, le jeûne, les tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, etc. Le durud, salat ala nabi. On a ces actes cultuels, on a ces formes d'adoration pure, mais on a aussi donc ces relations qu'on a avec autrui, et notamment nos engagements avec autrui. Cela fait aussi partie du kamal et de la perfection de l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette perfection donc à laquelle chaque musulman il doit aspirer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne donc toujours la possibilité de progresser, de mieux obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de profiter donc ce mois de Ramadan pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.